Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Tempo Classique pour une émission qui va, j'en suis sûr, vous faire faire de belles découvertes. Connaissez-vous Penelope Bigazzi, née en 1844 et morte en 1914? Probablement pas. Et César Geloso, né en 1867 et mort en 1960, pas plus, je suppose. Eh bien, sachez que la première est la maman du second. Rien d'extraordinaire, allez-vous me dire, et vous aurez raison. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que mère et fils sont tous deux compositrices et compositeurs. Et le fils, César Geloso, a composé une partie de ses œuvres à Montblainville, qui est un petit village meusien tout proche de Varennes-en-Argonne, c'est-à-dire à la limite des départements de la Marne et des Ardennes. Et pour nous parler de cette famille un peu hors du commun, je suis au téléphone avec celle qui vient de sortir un CD intitulé « La belle époque des Geloso » et qui contient uniquement des œuvres de ces deux artistes. Bonsoir Myrène Adouani.
Bonsoir Dominique.
Ben merci de nous accorder ces quelques minutes pour parler de gens que vous avez découverts il y a quelque temps déjà. Mais avant d'aborder cela, on va peut-être évoquer avec vous votre parcours musical.
Oui, eh bien, je l'ai démarré à Strasbourg, ma ville natale. J'ai suivi le cursus traditionnel au conservatoire de Strasbourg. Auprès de Jean-Louis Hagenauer, j'ai obtenu ma médaille d'or, j'ai fait le cycle de perfectionnement. Et dans l'été qui a suivi, j'ai aussi eu la chance d'être sélectionnée pour une résidence vraiment exceptionnelle au château de Villarceau avec un très très vieux musicien, très grand artiste, Giorgi Chebok, qui m'a beaucoup marquée. Mmh. Après quoi, je suis rentrée au Conservatoire supérieur de musique de Lyon dans la classe de Roger Muraro, personnalité magnifique, généreuse et très inspirante, voilà, qui a été vraiment centrale dans mon parcours. J'ai eu la chance de jouer dans pas mal d'endroits en France et à l'étranger, à Saint-Pétersbourg, à Montréal, à Bruxelles, à Florence, plusieurs endroits en Italie. Mmh. Et parallèlement à ça, j'ai passé des diplômes d'enseignement en piano et en chant choral. Et depuis maintenant un peu plus de 20 ans, j'enseigne au conservatoire d'Annecy.
Très bien. Et vous faites aussi un peu de recherche musicale et c'est dans ce cadre-là que vous avez mis, que vous vous êtes mis sur les traces de la famille Geloso. Alors peut-être oui. Qu'avant de mener cette enquête avec vous, on va écouter une première pièce de Penelope Geloso, née Bigazzi.
Thank you.
C'était une pièce de Pénélope Geloso né Bigazzi, une Iguanama Habanera de Salon. C'est bien cela, Myrène ?
Iguanama, voilà, c'est ça.
Voilà, on n'a pas l'accent, hein, pas forcément. Bien, alors on disait que c'était les recherches historiques qui vous avaient mis sur les traces de cette famille Geloso. Racontez-nous un peu tout ça.
Oui, c'est une très jolie histoire. C'était une sorte de jeu de piste au départ d'une vieille cassette audio. Il se trouve que ma famille maternelle est originaire de Varennes-en-Argonne, donc dans la Meuse, et j'ai toujours été passionnée par l'histoire du village et l'histoire de ses habitants, d'autant qu'il a été complètement détruit en 1914. Donc voilà, il y a aussi un intérêt pour ce qu'il a été avant. Et dans cette vieille cassette audio, il y avait le témoignage de dames très âgées, nées au XIXe siècle, qui avaient connu le village avant sa destruction. Donc on découvre voilà, l'atmosphère du village, l'organisation de son marché, etc. Et elles ont évoqué ces Italiens, ces musiciens qui étaient si connus en ce temps-là et qui venaient faire leurs courses à Rennes. Donc j'étais un peu dubitatif parce que des gens, des musiciens très connus à Varennes en Argonne qui venaient faire leurs courses... Ça m'a un peu interloqué et donc j'ai cherché leur nom sur Internet. Et il y avait quand même deux, trois traces immédiates. Et en tirant les ficelles, en allant ensuite chercher sur le site Gallica de la presse ancienne, des traces dans la presse ancienne, j'ai trouvé pratiquement 1000 articles sur eux. Ils étaient effectivement très connus au début du XXe siècle.
Oui, c'est vrai, mais là, bon, alors, heureusement que vous arrivez pour les remettre à l'ordre du jour, mais c'est vrai que leur nom avait complètement disparu du panorama musical.
Oui, il y a eu énormément de compositeurs à la Belle Époque, des petits compositeurs, il y en a eu vraiment des quantités, et la plupart ont été complètement oubliés. Mais le fait qu'ils aient eu un lien avec... La région de ma famille maternelle, le fait qu'ils aient traversé toute l'Europe dans leur histoire familiale, qu'ils avaient des liens avec la peinture aussi, puisqu'il y a plusieurs peintres dans la famille, qu'ils étaient au cœur d'une vie artistique foisonnante, tout ça m'a très vite passionnée et c'était l'occasion justement de faire sortir de l'oubli l'un de ces petits compositeurs oubliés.
Alors, il y a le petit compositeur César Geloso, puis alors il y a donc sa maman, Pénélope Bigazzi.
Voilà, ce que j'ai découvert, c'est comme un compositeur peut en cacher un autre.
Oui.
C'était amusant de retrouver des traces de sa maman musicienne. Et alors, c'était une très très grande pianiste, on pourrait la comparer à Clara Schumann ou Martha Argerich. D'accord. Aujourd'hui, par exemple. Elle avait été enfant prodige, fille de chanteur d'opéra à Sienne et à Florence, très très précoce, puisqu'elle a eu ses prix de solfège à l'Académie des Beaux-Arts de Florence l'année de ses 8 ans. Elle, ouais. À 14 ans, elle publiait déjà sa 7e œuvre aux éditions Ricordi. Elle était membre honoraire des académies philharmoniques de Ravenne et de Ferrare. Elle a joué dans tout le nord de l'Italie. On a loué son talent hors du commun d'artiste accompli. Alors c'était drôle parce qu'on l'a comparé à Mozart, mais on disait attention, elle n'est pas du tout comme tous ces petits prodiges élevés en serre chaude et qu'on attelle au clavier. Elle a un air délibéré qui annonce la santé et le contentement. Voilà, on disait d'elle qu'elle était tellement expressive et tellement épanouie à son clavier, tellement brillante aussi. Donc quand on voit ses programmes de concert, j'ai été regarder les partitions, ce sont quasiment uniquement des transcriptions d'airs d'opéra. Mm-hmm. C'était le contexte à l'époque en Italie. On faisait connaître les grands opéras par des transcriptions au clavier qui étaient des arrangements d'une difficulté souvent ahurissante. Certains arrangements dédiés à la main gauche seule, par exemple, tant qu'à faire. Et elle est partie dans une très très longue tournée avec son père dans tout le nord de l'Italie, puis dans le sud de la France. On la retrouve à Nîmes, à Montpellier, à Toulouse. Et finalement, elle passe les Pyrénées et elle s'installe avec son père à Madrid. Et on la retrouve très vite dans les grandes salles de la ville de Madrid, les grands théâtres. le conservatoire, et aussi dans les salons de l'aristocratie madrilène, dans la, par exemple la somptueuse demeure de la comtesse de Montijo, donc la mère de celle qui deviendra la femme de Napoléon III, Eugénie. Et on l'applaudit avec délire. Voilà, ses concerts amènent toujours une influence énorme. Et elle va rencontrer son époux à Madrid. Il est réfugié politique sicilien. Il est peintre miniaturiste céramiste. Et elle va avoir deux enfants en 1863-1867 qui vont naître en Espagne. Et on ignore un peu, ça c'est encore, ça fait partie de mes objectifs de recherche, je ne sais pas si je pourrais comprendre un jour leur lien avec la famille de la reine Isabelle II, parce qu'ils gravitent dans son entourage. Monsieur Geloso, père, donc mari de Pénélope, travaille pour le photographe de Sa Majesté. Il a l'occasion de lui présenter en personne à la reine son portrait. Mmh. Et on retrouve la famille Geloso sur le lieu de vacances de la reine à Santander. Et puis l'année où la reine Isabelle II part en exil dans le sud de la France, ils partent également. Voilà, ce qui peut-être n'est pas un hasard. Et ils arrivent en septembre 1868, ils arrivent à Bordeaux. Et donc là, on retrouve Pénélope dans les grandes salles, le Grand Théâtre, la salle Franklin à Bordeaux. Et elle captive son auditoire, elle arrache des applaudissements jusqu'à la frénésie. Et étonnamment, son répertoire change du tout au tout. Elle joue Beethoven, Weber, Mendelssohn, Schumann. Et par contre, elle ne compose plus. Elle a composé une vingtaine d'œuvres, essentiellement quand elle avait 16-17 ans. Mmh. Et à son mariage, elle n'écrira plus qu'une pièce. Voilà, elle va se consacrer à l'interprétation, au concert et à l'enseignement, et probablement à ses enfants.
Eh bien, je propose qu'on écoute maintenant une petite Scottish, La Asturiana de Pénélope Bigazzi. C'était une Scottish intitulée La Asturiana de Pénélope Bigazzi sous les doigts de mon invité Myrène Adjouani. Alors Myrène, on a parlé de la maman, Pénélope. Maintenant, on va peut-être parler donc des deux fils et essentiellement de celui qui va faire une carrière de compositeur, César Geloso.
Oui, alors il est né en 1867. Il a grandi dans le sillage de son frère. Son frère violoniste était extrêmement précoce. D'ailleurs, César a commencé par le violon également. Albert a eu très très tôt tous ses prix de violon. Il est devenu une star du violon international très 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 rapidement. Et César, quand il a 1882, oui, il est qualifié de frère du violoniste déjà bien connu. Donc ouais. Voilà, on le rencontre par le biais de son frère. Mmh. Et de suite, voilà, on lui attribue le sens artistique. Qui est un don commun à tous les membres de sa famille. Alors après, il va suivre le cursus traditionnel. Il a été formé par sa mère au piano après le violon, donc à Bordeaux d'abord. Mmh. Il est rentré ensuite au Conservatoire de Paris, dans la classe de Marmontel, parcours traditionnel pour tous ceux qui vont devenir de grands pianistes. Mmh. Il devra passer 3 fois son prix de sortie du conservatoire, parce qu'il était très mauvais en déchiffrage. Et la troisième fois, bien que ses interprétations étaient extraordinaires de couleur, de vigueur, d'expression, il a encore échoué à la lecture à vue, donc il n'aura pas la meilleure récompense et il va déclencher le scandale du public qui va se mettre à crier sur le jury. Voilà, des récits assez drôles dans la presse. Et puis, prix meilleure récompense ou pas, sa carrière démarre assez vite. Hein. On le retrouve un peu partout, en France, à l'étranger. On va le retrouver à Monte-Carlo, à Marseille, à Toulon, à Biarritz. Il va beaucoup jouer avec son frère. Mmh. Également en solo, soit sous forme de récital de pièces pour piano solo, soit avec orchestre, puis dans toutes les grandes salles de Paris, le Cirque des Champs-Élysées, la Salle Erard, la Salle de Société des Agriculteurs, la Salle Pleyel, pas mal de fois, au Châtelet. On va le retrouver dans des milieux mondains, on va le retrouver faisant des concerts pour les cercles Volney, pour le cercle de l'Union Artistique. Mais aussi, voilà, il faisait pas seulement dans la mondanité, il a aussi donné des concerts à l'ambigu, c'était des jeudis populaires de musique de chambre pour ceux qui avaient peu de moyens. Voilà, dans les concerts l'amoureux, les concerts colonnes, mmh. Et puis dans les soirées, dans les salons privés, qui étaient probablement très très chic. On le retrouve chez la comtesse de la Chapelle Croville, où tout le grand monde parisien se retrouve. On le retrouve chez Louis Diemer et sa femme dans leur bel hôtel. On le retrouve chez le vicomte et la vicomtesse de Kersin. Voilà, tout un tas de personnages très importants pour la vie artistique parisienne.
Et il est très apprécié par ses collègues, en fait, hein, quand il côtoie du beau monde. Il fait des jurys avec Fauré. Massenet trouve que c'est un excellent confrère et ami. Il a fait du deux pianos avec Camille Saint-Saëns. Et puis alors, j'ai lu aussi dans la présentation du CD ces propos de Gilles Blas, qui était donc un critique, disant que César Geloso était compositeur autant que virtuose, ce qui constituait un phénomène effarant, c'était un musicien modeste.
Oui, la presse s'amuse beaucoup de sa timidité maladive aussi, ce qui donne lieu à des scènes assez, assez drôles où il se cache quand il y a trop d'applaudissements. Voilà. Par ailleurs, il avait le tempérament sicilien très très chaleureux qu'on lui a reconnu plus tard quand il était directeur du Conservatoire de Versailles.
Alors on va écouter la musique de César Geloso avec une chanson d'avril
sous vos doigts, Mireille Ladouani.
C'était Chanson d'avril de César Geloso sous les doigts de Myrène Adouani.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors là, Myrène, on est dans les années 1890 à peu près, hein, c'est ça?
Oui, pour la composition, oui, c'est une de tes premières pièces.
Et on sent déjà un tempérament, un sens harmonique, enfin il y a des tas de choses qu'on entend dans la musique d'autres compositeurs de l'époque aussi. Hein.
Oui, 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 absolument, il a un héritage romantique certain.
Alors il a écrit aussi un tout petit peu de musique de chambre, enfin au moins dans ce que vous avez proposé pour ce CD, il y a peut-être d'autres choses qui viendront par la suite dans un autre CD. Vous avez pris la complicité de trois autres musiciennes avec lesquelles vous travaillez régulièrement, je crois, vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, au départ j'avais décidé de faire un disque sur de piano uniquement, qui était son instrument bien sûr, oui. Il a beaucoup écrit pour le piano. Et puis j'ai eu l'occasion avec la chanteuse avec qui je fais des concerts régulièrement, Marie-Hélène Ruchet, de déchiffrer certaines de ses mélodies qui m'ont particulièrement touchée, d'autant qu'il explore dans ses mélodies un registre plus grave, plus soutenu, moins souriant que la plupart de ses autres pièces. Et c'était intéressant, et puis elles ont été tellement commentées dans la presse de l'époque que c'est dommage de passer à côté. Donc la décision a été prise d'enregistrer certaines de ces mélodies. Mmh. Et parallèlement à ça, il a écrit pas mal pour son frère, enfin pour le violon plus exactement. Il y a d'autres instrumentistes qui s'en sont emparés, mais son frère Albert, qui jouait partout en Europe et aussi en Russie, à Alger, à Oran, son frère a joué ses duos pour violon et piano un peu partout. Il y a énormément de pièces caractéristiques d'un style. Alors il y a des caprices slaves, des choses dans le style hongrois et espagnol aussi beaucoup. Il y a pas mal de pièces hispanisantes. Non, ils sont nés en Espagne après tout, leur mère y a vécu longtemps. Ça aurait été un autre choix, mais là aussi c'était quand même dommage de se priver de la couleur des cordes. Et surtout que je joue dans un trio constitué, on fait régulièrement des concerts, alors c'est des répertoires plus connus, hein. Voilà, on fait des trios de Brahms, etc. Oui. Mais comme il y avait deux petites pièces en trio qui m'ont beaucoup plu, c'était dommage de s'en priver, notamment de l'interlude qui avait été orchestré après, qui a été joué aussi à la radio en direct pas mal de fois. J'avais été aussi très touchée par la berceuse de César Geloso pour violon et piano, qui avait été dédiée à Jacques Thibault, et le grand violoniste. Et Jacques Thibault la jouait régulièrement en bis, soit en France, soit il a joué à Lisbonne aussi, etc.
Ce qui est un gage de qualité. Et ben je vous propose d'écouter cette berceuse pour violon et piano de César Geloso. Thank you. C'était la berceuse pour violon et piano de César Geloso, sous les doigts de mon invité, Myrène Adouani, et de la violoniste Pascal Servranck. C'est comme ça qu'on dit, Myrène ?
Oui, je crois. Elle est belge.
Elle est belge, d'accord. Donc on disait tout à l'heure que César Geloso avait écrit pour la voix. Y a beaucoup de choses, parce que là on va en écouter quelques-unes, mais il y a peut-être d'autres choses aussi. Il n'y a pas de chant choral, il y a juste des pièces pour voix seule.
Voilà, c'est ça. Alors oui, Pénélope, sa mère, était chanteuse aussi. Elle donnait aussi des cours de chant à Madrid et à Bordeaux. Évidemment, ses grands-parents étaient chanteurs d'opéra, donc le chant fait partie de sa vie, en tout cas de son enfance. Dans son entourage, il y a aussi une chanteuse, il y a sa belle-sœur qui est chanteuse de métier, donc la femme d'Albert, oui, à qui il dédiera d'ailleurs l'une de ses mélodies dans la nuit. Il a écrit assez tôt pour la voix, certaines mélodies ont disparu, j'en ai retrouvé trace dans les déclarations à la SACEM, avec les titres. Ah. Et c'est assez amusant, mais 5 jours avant l'enregistrement, qui a eu lieu l'automne dernier, j'ai retrouvé à la Bibliothèque nationale d'Écosse, donc par voie numérique, j'ai retrouvé trace d'une autre mélodie de César Geloso, probablement assez tôt dans sa carrière, qui s'appelait aussi Chanson d'avril, mais en anglais, et qui avait été traduite en français. C'est une autre musique que celle qu'on a entendue tout à l'heure, donc voilà, qui a été éditée en Angleterre. Donc il y a comme ça quelques mélodies éparses. La chanson des oiseaux en fait partie. Et puis il y a un cycle de 6 mélodies sur des poèmes de Maurice Rollina. Donc Maurice Rollina, c'est un poète, un pianiste et un compositeur aussi, un écorché vif que César avait rencontré en 1898. Et il avait été très touché par son langage et la gravité existentielle de ses textes. Il n'y a pas que ça non plus. Hein, mais... mmh. Et un an après, en 1899, il va créer ses mélodies, Sal Playel, qui vont aller droit au cœur du public et qui vont vraiment frapper les esprits.
Je vous propose donc d'écouter Chanson des oiseaux sur un poème de Clélie Fazilo, puis Violette sur un poème de Maurice Rollina et Moulin sur un poème du même Maurice Rollina.
Mon vieux père avait une cage où 2 oiseaux chantaient. Les petits faisaient bon ménage, les petits s'adoraient. Et quelquefois, mon ami Pierre me disait gentiment: voilà plus tard, Jeanne, ma chère, le sang qui nous attend. Voilà plus tard, Jeanne, ma chère, le sang qui nous attend. Je rêve souvent de la cage. Je rêve souvent de la cage où les oiseaux chantaient. Petit qui s'aime.
C'était Chansons des oiseaux, Violette et Moulin, des pièces de César Geloso pour piano et voix.
Alors Myrène Aduanu, on va revenir au piano avec le scherzo espagnol. Parlez-nous un peu de ce scherzo et puis de la musique de cette époque.
Alors le scherzo espagnol, il a été édité dans une revue musicale de l'époque qui s'appelait Musica. Il y avait un supplément musical sous forme de livret de partition. C'était un mensuel qui était largement diffusé. Et donc, c'était en janvier 1912, il a publié ce scherzo espagnol avec un petit commentaire de l'éditeur qui disait que c'était une pièce vivante, colorée, destinée à des pianistes qui avaient déjà une certaine expérience parce qu'elle n'était pas évidente. Elle fait référence évidemment à son histoire personnelle, au fait que ses parents aient vécu de nombreuses années en Espagne, et elle fera écho à pas mal d'autres compositions. Il a écrit une danse espagnole, une habanera, une sérénade espagnole, il y a eu pas mal de pièces dans ce style-là. Il est assez coloré et dans l'histoire de César compositeur, elle est assez marquante parce que c'est à partir de cette pièce qu'il fera une pause dans sa démarche de composition. Il ne composera plus pendant pas mal de temps, probablement comme dans ces différentes étapes majeures de sa vie. Il s'agit d'événements personnels. Il a connu quelques drames dans sa vie. Le premier, c'était de perdre sa première femme, qui était peintre. Et suite à ça, il ne composera plus pendant une douzaine d'années.
Eh bien, écoutez, avant qu'il ne compose plus, on va écouter son scherzo espagnol.
Thank you.
C'était le scherzo espagnol de César Geloso sous les doigts de Myrène Adouani.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors donc on disait qu'il perd sa première épouse en 1911, donc il s'arrête de composer, puis sa seconde épouse est anglaise.
Oui, c'est une de ses anciennes élèves, Dorothy Dorning, une famille très très aisée anglaise, très très bonne pianiste, qui a une sœur violoniste. Et ils vont continuer d'ailleurs de jouer à deux pianos. Certaines des œuvres de César seront composées pour cette formation à deux pianos.
D'accord. Et puis alors il y a ensuite cet interlude qu'on a évoqué tout à l'heure, mais dont on peut-être dire quelques mots, leur trio.
Oui, il est assez frappant parce que je trouve que dans la partie centrale, on entend des couleurs vraiment foréennes. On voit que Fauré était un peu son maître. Hein. Il l'a connu, bien sûr. Fauré était plus âgé, évidemment, une notoriété sans pareil.
Oui.
Mais voilà, les harmonies de Fauré transpire un peu dans cette pièce et dans toutes les suivantes. Et dans sa douzaine d'années où il s'est arrêté de composer, eh bien, le temps a passé. Et puis, sans changer radicalement, son langage a évolué. L'harmonie a beaucoup évolué. Et cette pièce interlude est intéressante aussi. Elle est assez déroutante la première fois qu'on la joue parce qu'elle n'est pas sur des carrures stables. Elle est les nombres de mesures des phrases... disparaissent au profit d'entrelacs où les phrases sont tuilées les unes dans les autres, comme si ça s'arrêtait jamais.
Eh bien écoutez, je propose qu'on écoute ce trio dans l'interprétation de Pascal Sévranc, de Devline Gosserie, ou Gosserie, je ne sais pas comment on dit.
Gosserie.
Et puis vous, Myrène Adouani, au piano.
Thank you.
C'était l'interlude, un trio pour piano, violon, violoncelle de César Gélozou, dans l'interprétation de Pascal Sévranc, Delphine Gosserie et Myrène Adouani. Alors, Myrène, donc, il a eu un élève célèbre, César.
Oui, il a eu notamment dans, parmi ses élèves Christian Dior. Et chez les héritiers de son troisième fils, André Gélozou, j'ai retrouvé un télégramme de Christian Dior. C'était quelques mois avant sa mort, en 1957, je crois, où il se rappelait à son souvenir et il lui disait à quel point il lui devait beaucoup dans son enfance, qu'il avait vraiment le plus merveilleux souvenir de tout ce qu'il avait fait pour lui dans ses années de jeunesse.
C'est toujours agréable de recevoir ce genre de télégramme. Hein. Vous avez des élèves comme ça?
Pas exactement.
Pas encore.
Pas encore, du moins, voilà.
Bon, et puis il avait un lien aussi avec la comédienne Ariel Semenoff.
Absolument. Il avait parmi ses élèves deux sœurs, Denise et Claire Blot. BLOT, qui étaient les filles de Eugène Blot. Eugène Blot, c'était le fondeur de Camille Claudel d'ailleurs, collectionneur d'art qui avait une galerie avant-gardiste en ce qui concernait la peinture, la sculpture. Et Eugène Blot a mis ses filles à la musique. Elles ont commencé toutes les deux par le piano, Claire et Denise. On les retrouve sur la photo de classe de César Gélozou. Et puis l'une d'elles, finalement, s'est tournée vers la harpe. Elles sont devenues de grandes musiciennes professionnelles. César a fait des concerts avec toutes les deux. Alors, il a fait des concerts avec la pianiste à deux pianos. Mmh. C'était l'époque où a été expérimenté le piano double de Pleyel. Donc c'est un piano qui est organisé tête bêche avec un seul corps d'instrument. Donc c'est une sorte de gigantesque piano avec un clavier à chaque bout. Mmh. Qui était fabriqué par Pleyel. Pleyel, dont le directeur était Gustave Lyon, ami proche de César Gélozou. Gustave Lyon était, par exemple, le témoin du second mariage de César Gélozou.
D'accord.
Et donc, il a aussi fait des duos piano-harpe avec l'une des filles qui était harpiste. On retrouve des cartes postales envoyées à la famille Blot. Et il se trouve que la petite fille de la harpiste est Ariel Semenoff. Et donc, quand j'ai cherché un peu des descendants de ses plus grands partenaires musicaux pour essayer de trouver des partitions, des documents. Et donc, quand je l'ai trouvée dans l'arbre généalogique, c'était amusant. Puis elle a été adorable et très, très intéressée par le sujet. Oui. Et elle a dit, mais c'est fou, la famille Gélozou, j'en ai toujours entendu parler. C'était des amis de la famille. J'ai d'ailleurs gardé un programme de concert. Elle était ravie d'entendre parler des Gélozou.
Bien, alors César Gélozou a terminé sa carrière comme directeur du conservatoire de Versailles. Il est resté longtemps ?
Alors, il n'est pas resté longtemps, mais quand il a été recruté, il avait déjà 60 ans. Il a postulé parce qu'il habitait déjà Versailles, et puis il avait envie d'avoir des responsabilités un peu plus grandes. Il enseignait quasiment plus, en fait. Il s'était laissé le luxe de choisir ses élèves. C'était plus son activité principale. Il ne jouait plus non plus. Ça, c'était suite à un autre drame, c'est d'avoir perdu son frère partenaire de musique de chambre, Albert, qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, il avait une activité assez réduite. On le voit encore dans pas mal de jurys. Et puis, il s'était remis à la composition. Il avait l'intention de composer beaucoup et puis il s'est présenté à la candidature du conservatoire de Versailles. Il a été choisi en 1927. Et donc, quand il est arrivé à la tête d'un établissement qui fonctionnait, qui avait déjà une certaine taille, mais auquel il manquait des choses un peu essentielles. C'était un enseignement qui était très tourné vers l'individu, la performance individuelle. Voilà.
D'accord.
Quand on était violoniste, jouer des concertos, des études. Ouais. Et il a trouvé que c'était un peu pauvre musicalement. Mmh. Lui, qui avait été un grand chambriste, qui avait joué avec des orchestres, il a dit il faut absolument créer un orchestre dans ce conservatoire. Donc il a créé un orchestre symphonique qui n'existait pas avant. Mmh. Et il s'est aperçu à la première répétition, dont il avait la charge, puisqu'il était lui-même le chef de cet orchestre, qu'il n'y avait pas d'alto dans l'orchestre, puisque l'alto n'existait pas. Donc il a essayé de démontrer l'intérêt de l'alto. Et donc il a monté pas mal de programmes d'orchestre. Il a fait jouer sa composition pour orchestre, qui est son poème symphonique Versailles, justement. Uh-huh. Versailles sous Louis XIV. Et puis beaucoup des symphonies de Beethoven, beaucoup d'autres œuvres. Et il a dû se battre quand même avec des grandes familles de Versailles qui voulaient dispenser leurs enfants de musique, de pratique collective.
Ah bah oui, ça c'est... Oui, on connaît.
Voilà, c'est une problématique qui résonne à nos oreilles contemporaines.
Oui, tout à fait.
Voilà, et un jour, un élu lui a demandé de mettre la meilleure mention à sa fille qui était pianiste et qui passait son prix. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Ah oui.
Il pouvait pas. Il avait un caractère quand même très très trempé de Sicilien, et donc il a. Et la municipalité était vraiment désolée, a tout fait pour essayer de le laisser à son poste parce qu'il avait tellement révolutionné ce conservatoire. Il avait dynamiser son rayonnement, la vie artistique de la ville. Ils ont tout fait pour le garder, mais voilà, il n'a rien voulu savoir.
Il
n'est donc resté que 4 ans à la tête de ce conservatoire.
D'accord. Bien, alors si on revient un peu à sa musique, et il y a très peu de musique éditée, en fait, de César.
Non, il y en a quand même pas mal.
Ouais, même.
Il a eu plusieurs éditeurs chez Amel, Eugèle, Lemoine, Salabert, qui sont encore des grands éditeurs aujourd'hui. Mais c'est vrai, il y a eu un certain nombre de pièces qui ne l'ont pas été, qui ont été déclarées à la SACEM, mais pas forcément éditées. Il y en a certaines dans mon disque. Et puis, il y a carrément des partitions qui ont disparu, là aussi, à la SACEM. Un certain nombre de pièces tardives, des œuvres pour violoncelle et piano, des œuvres pour piano, des ballades, que je n'ai jamais retrouvées. J'espère qu'un jour... Sait-on jamais.
Sait-on jamais, oui. Alors, vous avez des projets de concert avec la musique de César Geloso?
Oui, alors je vais la jouer le 5 octobre dans le Nord, au Festival International Albert Roussel.
Oui.
Je suis très contente aussi de ramener sa musique à Versailles. Ça, ce sera le vendredi 19 décembre, à l'occasion d'une rétrospective anniversaire sur tous les directeurs, les anciens directeurs de ce conservatoire.
Bien, et puis alors, il faut signaler qu'il y a une association des amis de César Geloso qui existe.
Oui, 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 qui a été fondée avec notamment des descendants qui sont des gens charmants et qui sont passionnés par l'histoire de leurs ancêtres. Voilà, et cette association a beaucoup participé à l'élaboration de ce CD, sa réalisation pratique.
Alors Myrène, un grand merci de nous avoir fait parcourir toute la vie de ce compositeur si connu au début du siècle et qu'on espère qu'il va le redevenir grâce à vous, entre autres, et puis à d'autres qui peut-être s'intéresseront aussi à cette musique.
C'est toujours un plaisir d'en parler.
Ben oui.
Il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à jouer de lui.
Voilà,
de
vous avez un projet pour un second CD peut-être?
Pas forcément. En revanche, à chacun de mes concerts, j'ai à cœur de jouer une autre œuvre que je n'ai pas enregistrée. Là, cet été, par exemple, c'était la danse espagnole.
Mmh.
Et puis, mes prochains objectifs, c'est de ramener cette musique en Italie et en Espagne. Ça concerne surtout Pénélope.
Très bien. Eh bien, écoutez, Myrène, on vous remercie. Quelques annonces avant de se quitter. L'association des orgues de Notre-Dame des Nations à Vendeuvre organise le dimanche 5 octobre à 16h à l'église Sainte-Bernadette un concert voix et orgue à travers les siècles avec Clémence Petit, soprano, et Dominique Dantan à l'orgue. Samedi 4 octobre à 17h15, les concerts de l'atelier chez le facteur d'orgue Jean-Baptiste Gopilla à Novian-Auprès avec Pallavi Miadara au piano et Aurélien Faure au violon et à l'alto dans un programme Marin-Marais, Mozart, Casadesus, Ravel, Franck. Comme à l'habitude, ce concert est redonné le 5, mais c'est déjà complet.
Et puis on n'oublie pas le samedi 4 de 14 à 18h, la fête de la radio RCN. Vous pouvez passer nous voir rue Laurent Bonnevet à Nancy, dans le quartier du Haut-du-Lèvre. Vous rencontrerez toutes les personnes qui font vivre la radio, vous assisterez à des émissions en direct et vous pourrez visiter nos locaux et assouvir votre curiosité en posant toutes les questions que vous voudrez. Myrène, si vous êtes dans le coin, vous êtes évidemment la bienvenue.
Je suis un peu loin, mais ce serait avec plaisir.
Ça fait un peu loin, une autre fois peut-être. En tout cas, un grand merci. Merci à Joris pour la technique et on se retrouve la semaine prochaine.